Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre audience a largement dépassé des frontières que vous avez connues au temps où vous étiez douanier. Votre nouveau roman, La Chasse, a déjà largement atteint sa cible puisque vous êtes numéro un des ventes en France. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Alors, je vous avais accueilli au tout début des clés d'une vie, voici 5 ans. Vous avez déjà du succès. Ce succès a augmenté, comme l'audience de Sud Radio, je le précise.
C'est vrai.
Et il y a ce nouveau livre, La Chasse, chez Ixo, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, Le principe des clés d'une vie, reparler de votre carrière, bien sûr, à travers des dates. Alors, la première, elle ne vous correspond pas, mais c'est une date qui correspond à un album que vous avez lu et qui est l'un de ceux qui ont marqué votre jeunesse. Le 5 août 1953, c'est le début de la publication d'un Tintin de la marque jaune.
Ah oui, oui, c'est formidable, Edgar P. Jacob.
Exactement.
C'était un tel éblouissement. Et puis, c'est cette ligne claire, cette précision dans le détail. Moi, j'ai toujours eu l'amour du détail, aussi bien dans les BD que dans les romans. Et c'était vraiment formidable.
Oui, mais à l'époque, d'ailleurs, les enfants aimaient tellement qu'on a vu dans les mois qui suivent des marques à la craie jaune dans les cours de récréation.
Ça, c'est extraordinaire.
C'est fabuleux. Alors, c'est une histoire qui a marqué vos jeunes années parce qu'il y avait un côté passionnant, un côté effectivement précis, mais aussi le mal qui était présent à travers le docteur Septimus et Gonéapic. Et ça vous fascinait déjà, Bernard Minier.
Ah, mais ça m'a toujours fasciné, cette histoire de mal. Je ne sais pas à quel moment c'est apparu. Je pense que c'est effectivement dû beaucoup à mes lectures parce que moi, je suis quelqu'un de très livresque. Et il y avait aussi, à la même époque ou presque, je lisais aussi Beaumorane.
Oui.
Et il y avait ce Monsieur Ming, l'ombre jaune, qui était aussi une incarnation fabuleuse du mal, extraordinaire. Il y a eu je sais pas combien de déclinaisons tout au long des...
Il y a 35 albums avec l'ombre jaune.
C'est incroyable. Et du reste, quand j'ai écrit M, le bord de l'abîme, le méchant s'appelle Ming. Voilà. C'est pas par hasard.
Et Henri Verne, l'auteur de Bob Moran, est toujours vivant. Il vient de fêter son 102e printemps.
Oh, c'est
et
incroyable.
Il vit chez lui à Bruxelles, tranquillement, en continuant à écrire.
C'est le record des chiffres, parce qu'il a des centaines de volumes qu'il a écrits.
220.
C'est incroyable.
Mais finalement, ce mal à l'époque, c'était pas la mode, puisque quand la marque jaune est sortie, il y a eu des dizaines de lettres de protestation chez l'éditeur, parce que l'épouvante s'était interdite, et l'histoire a failli s'arrêter au milieu.
Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde la marque jaune, quand même, c'est nettement beaucoup plus tiède, si j'ose dire, que ce qu'on peut faire par les temps qui courent.
Oui, mais déjà, à l'époque, c'était pas tiède, pour l'époque, mais vous, ça ne vous posait pas de problème, Bernard Minier.
Non. Et puis moi, je regardais pas tellement ça. Moi, ce qui me fascinait, c'était comment, à travers un dessin, on pouvait créer une atmosphère, on pouvait créer une ambiance. Il y avait une ambiance incroyable, avec ce Londres des docks, ce Londres de l'East End, et puis la Tour de Londres, et toute cette ambiance très british. Moi, c'était déjà une question d'atmosphère. J'aime les atmosphères.
Et d'ailleurs, l'atmosphère a été reprise dans un disque enregistrement de la marque jaune qui a été numéro un des ventes pour les jeunes en France. C'était un 25 cm. Écoutez le début.
Minuit sonne dans le ciel d'Angleterre, tout alourdi de pluie. Au bord de la Tamise, sur le fond du ciel sombre, la tour de Londres découpe sa dure silhouette médiévale.
Oui, il y a l'ambiance qui existe déjà.
Incroyable.
Alors, vous, c'était une ambiance beaucoup plus calme à Montrejeau, au pied des Pyrénées, où vous avez grandi. C'est un village tranquille où tout le monde se connaissait, Bernard Minier.
Oui, c'est 2000 habitants, donc on se connaît beaucoup et on peut difficilement se cacher ou se livrer à des activités clandestines, hein, c'est assez compliqué. Mais oui, c'est un village, il pleut beaucoup l'hiver, les hivers sont longs. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu deux prix de polar de cognac qui viennent de Montrejeau. C'est quand même remarquable pour 1000 habitants.
Oui, et il y a aussi, et les amoureux du rugby qui écoutent Sud Radio le savent sans doute, Gérald Martinez, qui a été capitaine de l'équipe de France du rugby à 15,
absolument,
du Stade Toulousain et du Racing, et ben il est né à Montrejeau.
Tout à fait, oui, oui.
Et c'est vrai que c'est un endroit où c'est un symbole de ce qu'était la Douce France.
Oui, moi je suis pas aussi vieux que à l'époque de la marque jaune, j'étais pas encore né, hein, je l'ai découvert plus tard. Je suis vieux, mais pas à ce point-là. Mais c'est une époque où il y avait deux chaînes de télé, il y avait pas d'internet, il y avait pas de téléphone portable, c'était vraiment une autre France.
Et puis la lecture, pour vous, ça a toujours été une passion. Ça a commencé comment, Bernard Minier?
Ça a commencé, je pense, très tôt. J'ai commencé avec la lecture de Robinson Crusoe par une maîtresse remplaçante en fin d'année scolaire. Et je crois que c'est à ce moment-là que vraiment le texte écrit m'a happé, parce que je lisais déjà, mais je lisais des choses très illustrées.
Et Pim-pam-poum.
Oui, Pim-pam-poum, ça c'était merveilleux. Ça. C'est une invention, une drôlerie. C'est incroyable. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je suis sûr que j'aurais tout autant fasciné si je le relisais aujourd'hui.
Et Robinson Crusoe vous a fasciné, et vous n'êtes pas le seul, puisque Jean-Jacques Rousseau ne donne qu'un livre à Émile. c'est Robinson Crusoe.
Exact.
Et le terme de Robinsonade aurait été créé par Marx pour décrire l'état d'autarcie avant le capitalisme.
C'est ça.
C'est ça.
Ouais, et il y a quand même un épisode de Robinson Crusoe qui a été écrit plus tard où il traverse les Pyrénées.
Tout à fait.
Donc la boucle est bouclée.
Et finalement, la lecture, c'était plus important pour vous que les copains, que l'école. C'était déjà un univers où vous étiez heureux, Bernard Minier ?
Alors, c'est paradoxal parce que j'avais aussi beaucoup de copains. J'étais très, très, très bande. On avait nos petites bandes, etc. Mais en même temps, j'adorais m'isoler pour lire. Oui. J'étais quelqu'un à la fois de solitaire et à la fois de social. Il y avait les deux.
Et puis, vous avez découvert les classiques de la littérature. Vous les citez aujourd'hui dans beaucoup d'interviews. Votre culture, elle est née dans ces années-là.
Oui, elle s'est forgée petit à petit. Ça, c'est pas venu évidemment comme ça du jour au lendemain, mais je suis passé de Bob Moran à Jules Verne, de Jules Verne à la science-fiction, de la science-fiction fantastique à Lovecraft, et puis de ça à la littérature entre guillemets sérieuse. Quand j'avais 20 ans, moi, mes idoles, c'était des gens comme Thomas Bernhard, comme Kafka, comme voilà. Aujourd'hui, je suis un peu loin de tout ça.
Oui, et puis aussi, vous avez eu le privilège de grandir en un temps où il n'y a pas les plateformes et les séries.
Oui, de toute façon, on n'avait pas 36 manières de se divertir, de se distraire et aussi d'apprendre, parce que c'est aussi un apprentissage de la lecture. Il y avait les livres, il y avait un peu le cinéma, mais les salles de cinéma, elles n'étaient pas non plus très, très, très garnies.
Et vos parents acceptaient que vous lisiez, ça leur faisait plaisir ?
Ma mère avait beaucoup de mal avec ça. Elle
Pourquoi ?
Trouvait que ça m'isolait, que justement ça m'isolait des autres. Et ça m'enfermait. Déjà, elle avait peur du confinement, vous voyez. Et mon père, en revanche, m'a donné beaucoup d'encyclopédies quand j'étais jeune. Il y avait tout l'univers, il y avait l'encyclopédie Larousse, il y avait l'encyclopédie Quillet, qu'aujourd'hui, on a presque oublié. Et toutes ces encyclopédies, je pense que ma curiosité, elle est venue beaucoup de là.
Tout l'univers a été un fascicule qui a fasciné toute une génération.
C'est extraordinaire, tout l'univers.
Qui paraissait toutes les semaines.
Moi, j'ai découvert l'Odyssée d'Homère à travers tout l'univers, au départ, avec des illustrations magnifiques. Et petit à petit, après, je me suis mis évidemment à la version originale, mais au départ, c'est comme ça que c'est venu.
Et on a oublié aujourd'hui que cette collection était en vente tous les mercredis chez les marchands de journaux, pour 1,50 €, je crois.
C'est ça.
Et il y avait. Et on forgeait sa culture avec ça.
Ah mais et puis une culture relativement riche, parce que c'était plein, il y avait plein de choses dans tout l'univers.
Alors, vos études, Bernard Minier, d'abord, il y a le lycée professionnel de Gourdan-Polignan, et puis l'université Paul Sabatier, qui est très connue à Tarbes et à Toulouse.
Oui, alors c'était Toulouse, l'université Paul Sabatier, c'était Rangueil. Moi, j'étais en faculté de médecine, mais je dois dire que de ce côté-là, je n'ai pas été très glorieux, parce que je passais beaucoup de temps au café à écrire déjà.
Oui, oui. Ah, vous écriviez déjà des textes.
Ah oui, j'écrivais sur les petits coins de table au café, j'écrivais des nouvelles style américaine. Je lisais beaucoup de Henry Miller, de choses comme ça, et j'écrivais des nouvelles sur un pays que je ne connaissais même pas. C'est assez...
Et c'était une envie, c'était un désir déjà ?
Oui, j'ai eu très vite compris que la médecine, ce n'était pas mon truc. Je tournais de l'œil assez facilement.
Oui.
Et en revanche, je savais aussi depuis longtemps que l'écriture, c'était vraiment ma partie. Et donc, j'écrivais déjà, oui.
Oui. Mais il faut savoir que l'Université de Toulouse a été quand même classée première, et ce n'est pas de votre faute.
Ce n'est pas grâce à moi, oui.
Non, parmi les meilleures universités françaises pour trouver un emploi. C'est une étude publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Bah, je suis la démonstration inverse. Non ?
Exactement. L'exception qui ne confirme pas la règle. Donc, à l'époque, vous cherchez un métier.
Oui, alors déjà, je pars en Espagne, ça. Et puis après, en revenant, j'ai besoin de gagner ma vie. Et c'est ma sœur qui m'inscrit au concours de l'administration. J'ai d'ailleurs au concours de nouvelles, ça c'est plus tard.
Oui.
Au concours de l'administration, et c'est comme ça que je rentre dans les douanes, finalement.
Oui, parce que finalement, en Espagne, bon, vous avez fait la fête, c'était pas encore Ibiza.
Non, mais c'était la Mobida, en revanche.
Oui.
C'était vraiment la période de la Mobida. C'était après l'après-Franco, l'Espagne découvrait la démocratie, mais aussi le cinéma, la musique. Il y avait vraiment une ébullition extraordinaire.
Et vous aviez envie, vous, de vivre ces moments-là ?
Ah, mais je les ai partagés. Moi, j'ai fait mon éducation. J'avais quoi, 19-20 ans ? J'ai fait mon éducation en même temps que l'Espagne faisait la sienne, en quelque sorte.
Et vous avez appris à l'époque la liberté et l'idée que la démocratie n'est pas forcément naturelle ou évidente.
Oui, bah oui, parce qu'il y a quand même eu ce fameux tentative de putsch au Cortés en Espagne, auquel Juan Carlos a mis fin en décidant qu'il ne suivrait pas les putschistes. Mais c'était en 81, je crois, le fameux lieutenant-colonel Tejero. Et donc, on voyait bien que la démocratie était encore fragile.
Oui, mais alors, les douanes, c'est pas l'univers qui vous tentait. Comment c'est arrivé, finalement, Bernard Minier ?
Parce que c'était le premier concours d'administration qui se présentait.
Oui.
Il y en avait trois, il y avait les douanes, les impôts, le trésor. Je les ai fait dans l'ordre, et le premier, c'était les douanes.
Et ça vous tentait vraiment, ou c'était une obligation pour gagner votre vie ?
Non, c'était pour gagner ma vie, oui. Non, je connais assez peu de douaniers qui sont rentrés dedans par vocation. Après, il y a 1000 métiers dans les douanes, il y a des métiers absolument passionnants, il y a des spécialistes de plein de choses, des spécialistes des crocodiles, des espèces en voie de disparition, des tapis persans. Enfin, vous avez plein de choses dans les douanes, des biens civils et militaires qui peuvent servir à fabriquer des bombes. Mais au départ, c'était pas une vocation. Non.
Et vous avez quand même tenu 20 ans et vous 25. Avez fini. Et vous avez fini contrôleur principal. Qu'est-ce
c'est
que c'est
ça. Ah ben, c'est juste le cran au-dessus de contrôleur. Je suis rentré contrôleur et puis avec l'ancienneté, au bout de 25 ans, ils m'ont quand même mis contrôleur principal. C'est-à-dire, j'avais une force d'inertie assez grande.
Oui. Ça consistait en quoi?
Ben, c'est la même chose que contrôleur, hein. C'était pareil, c'est juste un grade au-dessus parce que, vous savez, l'avancement est un peu automatique dans l'administration. Hein. Il suffit d'y rester assez longtemps. Quoi.
Et contrôleur, c'est contrôler les entrées, les sorties ?
Ah non, je ne contrôlais rien du tout. Non, c'est juste un grade symbolique. Hein. C'est, voilà, c'est, non, non, c'est, en fait, contrôleur, c'est catégorie B, inspecteur, c'est catégorie A. Et voilà, donc c'était juste c'est l'équivalent d'inspecteur, enfin, l'ancien inspecteur dans la police, aujourd'hui lieutenant. C'est à peu près la même chose.
Oui, c'était une époque, je pense, où les trafics étaient beaucoup moins des slaps qu'aujourd'hui, non ?
Ah, c'était différent. Oui, il y avait déjà beaucoup de trafic. Il faut savoir que tous les biens qui peuvent être vendus, qu'ils soient fabriqués ou non, passent sous le joug des douanes quand on les exporte ou quand on les importe. On scrute tout ça, on scrute tous les flux. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait quand même quelque chose qu'on surveillait beaucoup, c'était l'Irak de Saddam Hussein.
Oui.
Parce que tout le monde avait l'obsession qu'il allait faire une bombinette, ce qui était un fantasme absolu. Hein. Mais tout le monde était persuadé qu'il essayait d'en faire une. Donc, on était tous en train de regarder ce qui s'exportait vers l'Irak.
Puis il y avait les douanes qu'on passait, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Mmh. Et moi, je me souviens de Francis Blanche qui arrive à la douane de Genève et il dit au douanier, j'ai quelque chose à déclarer, j'ai un réfrigérateur entre les jambes de ma femme. Ah, ce que vous êtes drôle, dit le douanier, il laisse passer. Il y avait vraiment un mini-réfrigérateur entre les jambes de sa femme et il n'y a pas eu de problème pour le contrôle douanier.
C'est le moindre des choses.
Alors ça a été le début et puis ensuite, la plume vous démangeait et ça a continué. On va continuer à parler de vous avec une autre date, le 19 janvier 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Minier.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bernard Minier. Ce nouveau roman La Chasse, chez Ixo, on va en parler. Mais on revient à une date qui ne vous dit pas grand-chose, apparemment. Le 19 janvier 2013, c'est la première fois qu'on cite votre nom à la télévision. La chaîne Midi-Pyrénées fait une émission appelée Territoire Polar. Et Benoît Sévrac, qui est un écrivain local, vous interview et vous avez promis le premier roman. C'est votre première télé.
Alors ça, franchement, je ne m'en souvenais plus du tout. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette info-là, mais c'est vraiment... je tombe des nues.
Voilà. Et le journaliste vous dit, mais votre premier roman glacé, la fiction a été rattrapée par la réalité parce que les enquêteurs ont découvert que Xavier Dupont de Ligonnès avait été vu pour la dernière fois avec votre livre.
Oui, c'est vrai. Depuis, la fiction, la réalité a souvent rattrapé la fiction. Ouais. Pas plus tard qu'on en parlera avec La Chasse,
oui,
c'est aussi le cas.
Absolument, oui.
Ça arrive assez souvent, oui.
Mais c'est vrai que la photo avec Ligonnès lisant votre livre, c'est quelque chose qui vous a marqué, dont on vous a beaucoup parlé, Bernard Minier.
On m'en a un peu parlé, mais heureusement, ça n'a pas changé grand-chose au destin du livre. Je veux dire, il avait déjà eu du succès avant, et ça n'a pas tellement... Et en plus, moi, j'ai pas vraiment donné d'écho à ça, donc finalement, l'information est passée un peu inaperçue. Et j'aime autant, parce que déjà, les crimes décrits dans mon roman n'ont rien à voir avec les crimes épouvantables dont il est présumé coupable. Et je préfère, parce que sinon j'aurais été très mal à l'aise.
Oui, mais c'est quand même un bon sujet, quelqu'un qui disparaît sans laisser de traces.
Ben c'est ça, en fait il y a quand même un personnage dans le glacé qui lui aussi disparaît, dont on ne sait pas s'il est mort ou vivant finalement.
Voilà, donc ça va peut-être donner des idées. Donc c'est votre première télé, parce qu'à l'époque finalement, vos livres sont sortis, mais vous ne faisiez pas beaucoup de télé, on ne voyait pas beaucoup Bernard Minier.
Non, et puis même par la suite, c'est assez récent la télé. Alors, c'est pas un média que j'ai beaucoup fréquenté. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être parce que même si j'ai beaucoup de lecteurs, je suis quelqu'un d'assez discret. Donc c'est peut-être ça. Je ne sais pas.
Alors quand on voit que effectivement Xavier Dupont-Ligonnès était présent indirectement dans votre vie, des lectrices et des lecteurs vous ont fait remarquer que des généraux à la retraite qui veulent rétablir l'ordre en France, ça fait beaucoup penser à La Chasse, votre dernier roman.
Bah oui, parce que dans La Chasse, il y a effectivement un général à la retraite et d'autres gens autour de lui qui veulent rétablir l'ordre. Ils sont prêts à s'en charger si le gouvernement ne le fait pas. Il se fait quand même, La Chasse est sortie 15 jours avant cette fichue tribune des généraux. Quoi. Donc, et ça m'est déjà arrivé aussi l'année dernière, puisque l'année dernière, j'ai sorti La Vallée qui parlait d'une population confinée, où les enfants n'allaient plus à l'école, les parents étaient au chômage technique, et paf, le bouquin sort et on se retrouve confiné.
Alors comment ça se fait?
Je ne sais pas.
C'est l'instinct ou
c'est un mélange d'intuition, d'information, de recherche. Non, je ne suis pas Madame Soleil.
Alors, le fait de vivre loin d'une grande ville aussi, ça vous a aidé à créer un univers particulier, parce que dans les villages, quand vous avez grandi, les secrets se gardent plus souvent.
Oui, bah moi, quand je pense toujours, quand je vois ces villages, effectivement, où tout le monde s'observe, il y a tellement d'œuvres qui... Il y a le corbeau, par exemple, de Clouzot, des choses comme ça. Oui. Ça me fait toujours penser à ça. Et du reste, La Vallée, qui vient de sortir chez Pocket, mon roman précédent, c'est un peu cet esprit-là. C'est un peu l'esprit du corbeau. C'est-à-dire, tout le monde s'observe. Ils sont enfermés, ils ne peuvent plus s'échapper. Il y a un assassin en leur sein et tout le monde soupçonne le voisin d'être l'assassin.
Et votre univers, finalement, Bernard Minier, il est né de toutes ces lectures, de tous ces films que vous avez vus?
Il est né de plein de choses, parce que moi, je suis tout le temps à l'affût de... Effectivement, c'est à la fois livresque, c'est à la fois... J'ai voyagé aussi, pas mal. Je suis très curieux, tout m'intéresse, la science, la religion, la philosophie, et je pense qu'au fond, tout ça, ça me nourrit.
Oui, alors finalement, l'écriture, ça a commencé au temps où vous étiez éloigné, vous écriviez des textes, des romans, des poèmes, personne n'en voulait.
Mais en fait, non, c'est que je ne l'ai proposé à personne, en fait. J'essayais même pas de les publier. Le premier roman que j'ai essayé de publier, c'est Glacé.
Oui. Mais avant, vous...
Ben non, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient publiées qui auraient peut-être mieux fait de ne pas l'être,
oui.
Dans ce que je trouvais dans les librairies. Et puis deuxièmement, je me disais pourquoi je vais aller jeter ma pierre. Puis Glacé, pour tout dire, les 60 premières pages, je ne trouvais pas ça bon du tout. C'est resté 3 ans dans un tiroir. Jusqu'à ce que quelqu'un qui faisait des concours de nouvelles comme moi lise ça et me dise « mais c'est formidable ton truc, il faut le finir ». Sinon, moi, je n'aurais jamais terminé.
Mais alors, les concours de nouvelles, pourquoi faire des concours comme ça si vous saviez que ça n'avait pas d'intérêt pour le lecteur?
Non, mais parce que je pensais quand même que je n'étais pas mauvais. Hein. Oui. Attends, je suis quand même assez lucide sur les qualités des uns et des autres, y compris les miennes, et je pensais que j'étais assez bon, et je voulais me mesurer à d'autres. Et les concours de nouvelles, c'est excellent pour ça, parce que ça nous permet de nous étalonner, de rencontrer aussi... Moi, j'ai rencontré des formidables talents de plume dans les concours de nouvelles. Il y a un auteur là, qui vient de sortir un livre récemment qui s'appelle Éric Foissier, qui fait aussi des romans policiers, que j'ai croisé dans les concours de nouvelles, qui avait l'habitude de les gagner. Et donc, c'est une très bonne école de concision, d'efficacité, de plein de choses.
Et quand on les gagne, il se passe quelque chose?
Bon, on reçoit un petit prix, on est content. Hein. Oui. Moi, j'ai pris autant de plaisir à être couronné dans des concours de nouvelles que je le suis aujourd'hui à avoir des lecteurs avec La Chasse ou avec Glacé.
Alors Glacé, justement, c'est né comment l'idée de ce roman qui a été votre premier best-seller, Bernard Minier?
C'était un défi, en fait. Je voulais voir si j'en étais capable. C'était un exercice de style. J'étais pas du tout un spécialiste du roman policier. J'en avais lu quelques-uns, mais j'avais lu quoi? Simenon, Edgar Poe, Chandler, Conan Doyle, des choses comme ça. Et puis, alors, quand j'ai décidé d'écrire Glacé, j'ai commencé à lire quand même les auteurs contemporains, un peu les gens comme Conley, Garanger, Elroy, etc., pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et quand je me suis dit, je crois que j'ai compris à peu près comment ça marche, voilà, je me suis lancé. Mais c'était vraiment un exercice de style.
Et effectivement, 60 pages, c'était le point de départ, sans imaginer que vous iriez jusqu'au bout.
Non, parce que au bout de 60 pages, je me suis dit, oh, c'est pas terrible. J'ai laissé tomber, j'ai rangé ça dans un tiroir, et puis je les ai sortis 3 ans après, et je l'ai fini.
Et grâce à quelqu'un qui les a lus?
Oui, complètement. Quelqu'un que j'ai croisé qui s'appelle Jean-Pierre Chimbert, que j'ai croisé dans des concours de nouvelles, qui avait l'habitude de les gagner aussi. Et c'était le concours en question, c'était le concours Pégase à Maison Lafitte. Oui. Alors, c'est pas du turf, hein, c'est pas du tiercé, c'est de la littérature, en fait, de la nouvelle. Et donc, il avait reçu le premier prix, j'avais reçu le second. On a fait connaissance au château de Maison Lafitte en présence du député maire, Jacques Miard, et on a parlé polar, etc. Et c'est comme ça que je lui ai montré ces 60 pages qui dormaient dans un tiroir depuis une éternité.
Et vous avez créé un personnage qui a plein de problèmes et qui vit à Toulouse, cher à la chanson de Claude Nougaro.
Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse.
Toulouse, cher au cœur des Français, c'est devenu un symbole Nougaro de la ville. J'ai découvert que Nougaro était comme vous un grand lecteur. Ouais. C'est-à-dire qu'il disait que Hugo jouait du tam-tam avec la langue française. Et son premier grand choc, c'est la définition du baiser par Raymond Rostand, un point sur l'i du verbe aimer. Tout est parti de là.
C'est magnifique. Mais c'était quelqu'un d'une grande culture et c'est surtout un très bel auteur de textes. C'était un écrivain, c'était un poète, hein, Nougaro.
Et vous êtes devenu écrivain avec un personnage à part, car effectivement, votre Martin Servaz, le capitaine, ne ressemble pas aux autres héros. Et vous ne pensiez pas d'abord qu'il vivrait aussi longtemps. Et vous l'avez voulu différent, Bernard Minier.
Oui, je voulais déjà éviter le cliché ou le stéréotype du flic alcoolique, du flic flingueur qui sort tout le temps son arme, qui est toujours borderline, comme on dit aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'il soit taille humaine, je voulais qu'il soit... Servaz, il a le vertige, il a peur de la vitesse, il oublie tout le temps son arme dans la boîte à gants, enfin, il l'oubliait. Et puis il a ses faiblesses aussi, il a ses failles. Et sa vie de famille, surtout, c'est ça qui m'intéressait.
Mais il n'est pas le seul, puisque j'ai découvert qu'à Toulouse, il y a un policier qui avait une garde à vue à faire, et puis de ramener la personne chez le procureur, l'accusé, et puis il n'a rien pour le sceller. Donc il prend un morceau de Babybel, la croûte du Babybel, et il fait ça comme scellé. Ce qui fait que comme c'était en plein mois d'août, la convocation est arrivée, le dossier est arrivé avec du fromage, une odeur de fromage épouvantable, et le procureur n'a pas été très content.
C'est incroyable, je ne connaissais pas du tout cette anecdote.
C'est authentique.
Ah oui, je vous crois.
Et puis alors, vous pensiez que vous feriez un roman, pas deux à l'époque, Bernard Minier ?
Oui, comme j'ai dit, c'était un exercice de style, donc c'était juste, je voulais voir si j'en étais capable, si je pouvais être publié, si je, voilà, et finalement quand j'ai eu terminé Glacé, j'avais ce personnage de Martin Servaz sur les bras, si j'ose dire, et je me suis dit quand même il est pas mal ce personnage, on pourrait peut-être faire un petit bout de route ensemble.
Oui, mais surtout quand vous avez envoyé le manuscrit chez l'éditeur, qui était Bernard Fixeau, vous ne pensiez pas avoir une réponse et un oui?
Non, non seulement je l'ai envoyé à Bernard Fixeau, mais je l'ai envoyé à 5 maisons d'édition bien connues, je ne vais pas les citer évidemment, non. Et sur les 5, 4 m'ont répondu. Et la première au bout de 3 semaines. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à tapisser, comme Francis Scott Fitzgerald, ma salle de bain avec des lettres de refus. Et ça s'est passé très vite et très facilement.
Est-ce que vous n'êtes pas arrivé finalement à un moment où le thriller français était dans l'actualité et revenait à la mode alors qu'il n'existait plus, Bernard Minier ?
Complètement, oui. Je suis arrivé à un moment où il y avait une appétence pour ce genre de romans. Et on le doit en grande partie, nous, auteurs de thriller français, à Jean-Christophe Granger qui avait ouvert la porte avec Les Rivières Pourpres.
Bien sûr. Mais est-ce que vous pensiez que vous auriez autant de succès dès le départ ?
Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve année, c'est que Bernard Fixeau m'avait fait un avaloir, une avance, comme on dit. Et j'avais calculé, c'était 9 mois de mon salaire. Ce qui était déjà formidable pour un auteur que personne ne connaissait. Il y a peu d'éditeurs qui auraient pris ce risque. Et donc, j'avais pris une disponibilité de 9 mois en me disant, au bout de 9 mois, je reviendrai dans les douanes.
Voilà, et c'est raté de ce côté-là.
Et je ne suis jamais revenu.
Vous avez eu raison, il s'est passé d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 16 octobre 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Minier.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, Les clés d'une vie, celle de mon invité Bernard Minier. On parlait tout à l'heure de La Chasse, ce best-seller qui est sorti chez Ixo, qui est déjà numéro 1 des ventes des livres en France. Et le 16 octobre 2017, ça vous dit quelque chose ?
Non plus.
Écoutez le générique.
Capitaine Servaz ?
Ouais.
Je suis le capitaine Ziegler.
C'est la diffusion de Glacé, premier épisode sur M6.
Oui, mais maintenant que vous le dites, oui.
Ça, c'est une consécration. Vous n'auriez jamais imaginé que ce roman de 60 pages deviendrait une série en 6 épisodes à la télévision.
Ah non, du tout. Et puis, avec quels acteurs ? En plus, je trouve que Charles Berling est formidable. Pascal Guéry est un immense acteur de théâtre et de cinéma. Non, moi, j'étais époustouflé. J'ai été une journée sur le tournage. Et alors, ils avaient juste un petit problème quand même cette année-là, c'est qu'il n'y avait pas de neige.
Oui.
C'était un peu compliqué.
Il fallait la neige artificielle, il fallait trouver...
Oui, mais c'est pas pareil. Hein.
Et c'est arrivé comment, cette aventure de l'adaptation de Glacé à la télévision ?
Alors, on a vendu les droits très vite, enfin assez vite à Gaumont, je crois dès 2012, quelque chose comme ça. Et après, voilà, Gaumont a eu ce projet pour M6 qui voulait vraiment se lancer dans la fiction policière. Et je crois que d'ailleurs que la diffusion, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que la diffusion du premier épisode du pilote de Glacé sur M6 était la première fois où M6 passait devant TF1.
Exactement.
Ouais. Et voilà. Et ensuite, aujourd'hui, la série est sur Netflix, ce qui veut dire qu'elle est diffusée dans quelque chose comme 192 pays.
Oui, alors ça, c'est arrivé comment ? Parce que Netflix, en général, reprend les séries américaines. Des séries françaises, c'est rare, Bernard Minier.
Il y en a quelques-unes, oui. Mais il commence à être demandeur. Mais là, oui, c'était, je ne sais pas en fait à quel moment c'est passé de Netflix. M6 sur Netflix, j'avoue que c'est le genre de question que je me pose même pas, mais c'est extraordinaire parce que 192 pays sur la planète, il y en a quoi, 196, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc si on enlève la Corée du Nord et puis peut-être, je sais pas, l'Iran, quelques pays comme ça, ça veut dire que c'est diffusé partout.
Voilà. Et Netflix, on l'a un peu oublié, ça vient d'Internet et Flix. Net et Flix, c'est l'expression familière du faux film en anglais. Et ça a été créé par deux personnes qui avaient un problème parce qu'ils avaient loué des cassettes, ils n'avaient pas rendu à temps, donc ils avaient une pénalité. Donc ils ont essayé de créer leur propre réseau de location de cassettes et de DVD. Et puis des DVD, ils sont passés au film et aujourd'hui, Netflix est dans le monde entier.
Les bonnes vieilles cassettes VHS.
Oui, exactement. Mais alors, cette série télé, vous auriez pu l'adapter, vous auriez pu être le scénariste, Bernard.
Oui, alors j'ai eu aucune part dans la série en question. J'ai pas. Déjà à l'époque, comme on a vendu les droits très tôt, moi déjà j'ai essayé d'être un romancier parce que j'étais aussi nouveau comme romancier. Et le scénario, ça me paraissait être un exercice tellement différent. Alors depuis, je me suis un petit peu rattrapé. J'ai écrit un téléfilm en collaboration avec une personne qui s'appelle Laura Munoz. On a écrit un téléfilm qui s'appelle Le Diable au cœur pour France 2. J'ai aussi d'autres projets un peu dans les tuyaux d'adaptation. Sans doute La Vallée va être adaptée en série, mais je ne serai pas le scénariste. Hein. J'ai en revanche une adaptation d'une putain d'histoire où là, je pourrais peut-être être le scénariste également. Voilà. Mais bon, tout ça a été un peu figé l'an dernier par cette fichue crise qui a tout paralysé.
Oui, mais finalement, le scénariste, c'est un métier très différent du romancier.
C'est un métier extrême, oui, bien sûr. Et moi, je n'aime pas faire les choses à moitié. J'aime faire les choses de manière professionnelle et c'est un apprentissage. C'est, quand on a écrit ce téléfilm, j'ai énormément lu, énormément appris sur les techniques d'écriture scénaristique. Et en même temps, ça me sert aussi aujourd'hui dans l'écriture romanesque parce qu'il y a quand même une exigence dans la construction des personnages, dans la structure, au niveau du scénario. On peut pas, à peu près, n'est pas autorisé. Dans le roman, on peut à la limite se permettre quelques approximations qu'on dit simule avec le style, finalement, avec l'écriture elle-même. C'est pas possible dans le scénario.
Donc ça veut dire aussi être réaliste sur le nombre de personnes sur scène, sur les décors.
Il y a plein de choses. C'est vraiment une discipline, le scénario. Et ça, c'est aussi favorable ensuite quand on écrit des romans.
Alors, quand on cherche les sources de Bernard Minier, il y en a une qui est traditionnelle pour trouver les sujets, c'est la Dépêche du Midi, votre journal de toujours, tous les matins.
Oui, oui, bah je le reçois dans ma boîte aux lettres, même si je ne suis plus dans le sud-ouest depuis longtemps, puisque je suis en région parisienne, je reçois tous les matins la Dépêche du Midi.
Et pour vous, c'est important, c'est une lecture qui vous donne des idées de sujets ?
Ah, plein de choses. Moi, sur la chasse, il y a plein d'anecdotes qui sont dans la chasse que j'ai d'abord découvertes dans la Dépêche, et ensuite j'appelle éventuellement les contacts que j'ai dans la police ou ailleurs pour leur dire « ça c'est vrai, ça s'est passé comme ça ». Par exemple, il y a juste c'est périphérique, c'est pas le cœur de l'histoire dans la chasse. Hein. Il y a un moment donné où Servaz revient au commissariat. Le commissariat, il y a plein de monde dedans, des gens qui sont entendus, soit en garde à vue, soit à titre de témoin. Et il apprend qu'il y a eu 7 agressions au couteau entre le vendredi et le dimanche soir dans le centre de Toulouse, sans lien entre elles. Ça paraît extravagant, mais ça s'est vraiment passé en 2020.
Voilà. Et on trouve presque plus de faits qui vous servent dans les romans, dans la presse quotidienne régionale, que dans la presse nationale.
Oui, bah parce que moi, je suis très ancré sur un territoire. Mais par exemple, dans la chasse, il y a des thématiques qui sont vraiment nationales que j'ai abordées. La question de ce qu'on peut enseigner dans certains établissements scolaires et ce qu'on ne peut plus enseigner, c'est national. Je l'ai situé dans un établissement toulousain parce que ça se passe là-bas, mais ça aurait pu être ailleurs.
Oui, la Dépêche, d'ailleurs, au départ, ça s'appelait la Dépêche de Toulouse. Ça a commencé le 2 octobre 1970. Et au départ, c'était les ouvriers qui l'avaient créé pour donner les informations sur la guerre, pour que les femmes des soldats aient des nouvelles de leur mari.
C'est remarquable. Et du reste, j'ai inventé un journal pour les besoins de la chasse qui s'appelle La Garonne, oui. Donc qui n'existe pas.
Qui a existé.
Mais j'ai découvert, oui, qu'il avait existé, pas longtemps. Hein. Je crois qu'il a duré quoi, une dizaine d'années, pas plus,
oui.
Dans les années 30. Ouais.
Oui, et avant la guerre.
Oui, avant et pendant. Je ne sais pas quelle orientation il avait, ce journal, mais je crois qu'il s'est terminé à la Libération, pas loin. C'est un peu louche.
Alors, j'en reviens aux journaux qui ont parlé de vous, parce que finalement, bon, il y a une télé, mais après la sortie de Glacé, vous avez été couvert de prix, Bernard Minier. Le prix du Polar de Cognac, le prix Découverte, le prix de l'embouchure, c'est arrivé presque en cascade.
Oui, oh, j'ai eu quelques prix, mais il y en a eu qui en ont eu beaucoup plus que moi. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai eu des lecteurs très vite. J'ai eu un lectorat très vite et il n'arrête pas de grandir. Et ça, c'est la plus belle des récompenses.
Oui, mais est-ce que quand vous avez fait votre premier livre, vous vous êtes dit, il y a un succès, ce sera un accident ou je vais continuer ?
Disons que quand j'ai vu la réaction des maisons d'édition, des plus grandes maisons d'édition par rapport à ce texte, je me suis dit, tiens, là, il y a quand même quelque chose à faire. Je pense que je me suis rendu compte, en fait, que si ça intéressait autant les maisons d'édition, c'était qu'il y avait sans doute une bonne raison.
Oui, mais il a fallu quand même pas mal d'années pour que ça arrive, 25 ans. Depuis, vous écrivez un roman par an, c'est-à-dire 7 jours sur 7 de travail, pour rattraper le temps perdu.
Ben oui, parce que effectivement, ouais, la plus grande partie de ma vie est quand même derrière moi. Donc maintenant, il n'y a plus de temps à perdre.
Oui, mais en même temps, c'est un travail harassant. Il faut trouver des idées, il faut écrire, vous voyagez beaucoup.
Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme harassant, parce que j'ai passé 25 ans en tant que petit employé de bureau avec 3 heures de transport par jour. Et à mon avis, c'est beaucoup plus harassant que mon métier actuel. Donc, je suis vacciné à la vraie vie. J'ai reçu mes deux doses il y a longtemps. Et le travail d'écrivain, c'est que du bonheur. Hein. C'est ceux qui s'en plaignent auraient mauvaise grâce à le faire.
Ça veut dire des heures dans son bureau tous les jours ?
Mais oui, mais quand c'est une passion, on compte pas. Vous le savez bien.
Je sais bien, mais en même temps, il faut se renouveler. Il y a des moments difficiles. On ne sait plus comment on avance.
Ah, mais il y a du doute, il y a de l'angoisse, il y a des choses. On n'est jamais certain que l'idée, telle idée est la bonne, mais on cherche. Mais voilà, c'est moi, je prends toujours ça avec avec la joie, avec le plaisir. Je suis pas quelqu'un de très angoissé, très stressé par. J'ai passé 50 ans à faire autre chose. Donc aujourd'hui, c'est juste du bonus.
Voilà, et c'est un super bonus, puisque je crois que vous êtes traduit à l'étranger. On en est à 22 traductions, je crois.
23 maintenant.
23, ouais, tout augmente.
Une langue de plus qui est venue s'ajouter, oui. Bah oui, et surtout, il y a l'espagnol et l'anglais, donc ça veut dire à peu près tous les continents.
Oui.
Et j'ai beaucoup voyagé avant qu'on soit tous bloqués, arrêtés. Je voyageais pas mal à la rencontre de mes lecteurs un peu partout. C'est en Amérique du Sud... en Europe de l'Est, en Afrique du Sud, enfin dans plein d'endroits. Et ça, c'est moi, ça c'est un bonheur inimaginable. Aller à la rencontre de lecteurs polonais ou colombiens, argentins, africains du Sud, qui vous parlent de votre personnage, de Martin Servaz, qui est un flic de Toulouse et qui enquête dans les Pyrénées, ça c'est une joie.
Oui, mais en même temps, il faut rattraper le temps perdu après quand on publie un roman par an, parce que les voyages, ça prend du temps.
C'est le problème, et c'est pour ça que finalement, je sais que beaucoup, beaucoup de gens ont très mal vécu le confinement, tous ceux qui sont dans des petits appartements, dans des espaces où c'est bruyant, ou qui sont en famille avec des enfants, ils doivent tout gérer en même temps. Moi, je suis dans ma maison, tranquille, j'ai écrit non-stop, et j'avoue que le confinement s'est plutôt bien passé.
J'imagine, oui. Alors finalement, il y a aussi beaucoup de courriers qui arrivent pour vous de l'étranger, et votre public est très large. Ça va des plus anciens aux très jeunes, oui. Finalement. C'est assez curieux.
Oui, alors je vois bien quand j'allais encore dans les festivals, et je vais bientôt y retourner, j'espère, dans les festivals et les salons du livre, j'ai quand même beaucoup plus de lecteurs qui ont au-dessus de 40 ans ou de 30 ans qu'en dessous. Hein. Mais il y a quelques jeunes gens aussi, oui.
Et puis vous recevez du courrier d'étrangers ?
Oui, je reçois du courrier de partout. Mais ça aussi, c'est dû à la série. Hein. La série télé a fait que de temps en temps, j'avais un lecteur de Bombay, Mumbai, qui m'écrivait, un lecteur de, je ne sais pas moi, de Buenos Aires ou de Montevideo. Alors quand c'est en espagnol, ça va, je parle espagnol. Et l'anglais aussi, c'est bon.
Voilà. Mais pour le reste, c'est plus compliqué. Et puis vous êtes l'un des premiers auteurs romanciers, Bernard Minier, à avoir créé votre site officiel. Aujourd'hui, beaucoup d'écrivains le font, mais vous avez été un pionnier aussi dans le genre.
Ah ben ça, je l'ignorais. Oui. Vous me l'apprenez, oui, ben c'est possible. Mais non, je crois que... Et pourtant, je suis un peu comme mon personnage, je suis un peu technophobe.
Hein. Oui.
J'ai beaucoup de mal. Alors là, je me fais un peu aider quand même, parce que si je devais faire ça tout seul, je pense que ça ne marcherait pas.
Mais ça vous aide à donner des nouvelles à vos lecteurs.
C'est ça. Ouais. Mais je me méfie beaucoup des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on voit de tels phénomènes négatifs sur les réseaux sociaux. C'est comme aussi un déversoir, ouais, de plein de passions mauvaises. Et moi, j'y vais pour mes lecteurs, pour leur dire ce qui se passe, pour leur annoncer les nouveautés, pour échanger avec eux, pour voir leur ressenti aussi. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas là pour parler de moi et de ma vie.
Alors, dans vos voyages, il y a eu un jour difficile, je crois, quand vous êtes arrivé à Oxford en jean, je crois, Bernard Minier.
Alors, oui, c'est vrai. C'est une histoire assez amusante. C'est que, en fait, j'étais invité à Oxford et j'étais tellement fier de l'être, ouais, dans un grand dîner officiel où tout le monde devait être. Et j'avais reçu une lettre comme quoi je devais porter jacket et black tie. Ouais. Ce qui traduit littéralement est une veste et une cravate noire. Ouais. Sauf que jacket et black tie, pour un Anglais, évidemment, ils ne font jamais les choses comme tout le monde. Ça veut dire un costume. Donc, je suis arrivé à Oxford tout fier avec ma cravate noire que j'avais acheté, ma veste et un jean. Et là, j'ai vu mon éditrice anglaise épouvantée qui me dit « Mais où est ton costume ?» Et on est parti, il était 18h, je me rappelle, le dîner commence à 20h, on est parti dans les boutiques d'Oxford en 4e vitesse pour essayer de trouver un costume à ma taille.
Et les Italiens, je crois, vous ont qualifié de plus grand auteur européen et les Espagnols de roi du thriller.
C'est vrai, j'en suis pas peu fier, parce que surtout, j'ai évidemment des liens très forts avec l'Espagne et j'aime aussi beaucoup l'Italie qui est... un pays de gastronomie, d'art absolument merveilleux, et j'y retournerai très bientôt. Oui, il più grande giallista europeo, quelque chose comme ça. Mais oui. C'était dans un journal qui s'appelle Il Fatto Quotidiano, qui est le plus grand quotidien de gauche italien, qui est une référence absolue pour tout ce qui est la littérature. Donc oui, ça fait assez plaisir. Après, il faut faut garder la tête froide quand même.
Oui, mais vous n'auriez jamais espéré ça, Bernard Minier, dans vos rêves les plus fous?
Ben, bien sûr que non. Non. Ben, je veux déjà, moi, dans mes rêves les plus fous, il y avait juste le fait d'être publié, de pouvoir peut-être un jour vivre de ma plume, et c'est tout.
Ça, et finalement, aujourd'hui, vous vous dites, mais j'ai pas perdu trop de temps avec les premières années?
Oui, c'est vrai. Je me le suis dit. Maintenant, je me dis un peu moins, mais au départ, je me disais souvent, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt?
C'était peut-être pas le moment.
C'est ça, je pense que oui. Il faut prendre des choses avec philosophie, il faut prendre les choses comme elles viennent, et puis tant mieux,
et ben voilà.
Prendre le bon côté des choses.
Et le succès continue, on en parle avec une autre date qui n'est pas une blague, le 1er avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Minier.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bernard Minier. 1er avril 21, sortie de La Chasse chez Ixo, la nouvelle enquête de Marcin Servaz est une fois de plus numéro 1 des ventes tout de suite, immédiatement. Et cette enquête, bah, finalement, c'est une enquête dans un monde très différent, puisque il y a la première image, c'est la vision d'un cerf aux yeux d'humain.
Oui, alors évidemment, il ne s'agit pas d'un cerf, et ça, on ne va pas trop spoiler, mais il s'agit d'un jeune homme qui est renversé par une voiture par une froide nuit d'octobre au milieu de la forêt sur une route d'Ariège qui aurait dû être déserte. Et il se trouve qu'il est nu, qu'il a une sorte de capuchon de peau avec des bois de cerf et il a le mot « justice » gravé sur la poitrine.
Et le livre débute par « Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper ».
C'est ça. Et oui, malheureusement. Et on les voit de plus en plus, ces ténèbres-là.
Alors, finalement, ce prologue, c'est important parce que vous aimez dans vos livres, Bernard Minier, des prologues forts et haletants.
J'adore prendre le lecteur par le cou, hein, l'attraper par, et le plonger la tête la première dans mes histoires. C'est, je l'ai dit plus d'une fois, c'est comme une gifle amicale que je lui donne pour le réveiller, pour lui dire en quelque sorte « accroche-toi parce que ça va secouer ».
Encore faut-il le trouver, ce début?
C'est ça, mais moi, toutes mes histoires commencent par cette première image, en fait. C'est cette première image que j'ai à l'esprit avant toutes les autres. Et cette scène très forte, et c'est une formidable impulsion, un formidable élan pour le reste.
Alors, il se trouve que c'est aussi une tradition au cinéma et à la télévision aujourd'hui, avec des prologues. Et le premier feuilleton à avoir eu un prologue, c'est Les Incorruptibles, avec Robert Stack. Feuilleton des années 60, qui a lancé la deuxième chaîne de télévision. Et il y avait un prologue avant le générique.
C'était formidable.
C'était la première.
Les Incorruptibles.
Avec Contre Al Capone.
Il était extraordinaire, Robert Stack.
Alors, La Chasse, c'est venu comment, cette idée? Parce que c'est encore une histoire totalement... c'est un thriller très fort.
Ben en fait, c'est venu d'une inquiétude, c'est voir ce que ce pays est en train de devenir, voir comment notre société est de plus en plus déchirée, de plus en plus violente, comment on a de plus en plus de mal à dialoguer. Et je me pose beaucoup de questions sur l'avenir. On a des échéances électorales qui vont arriver très rapidement. On sent bien qu'on n'a pas un climat pré-insurrectionnel, mais presque. Quand on voit ce qui s'est passé ce week-end pendant les manifestations du 1er mai, etc., le week-end dernier, je veux dire. Et voilà, elle est venue, cette inquiétude-là. Mais moi, je ne suis pas là pour écrire des essais ou pour faire des théories. Moi, je suis un conteur d'histoire. Et donc, c'est à travers une histoire que je pose ces questions-là.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même les dérives de l'époque, les règlements de compte, les homicides. Il y en a plein votre livre.
Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont réalistes, mais il y a aussi des crimes tout à fait extravagants, et comme j'aime les faire.
Voilà, mais justement, on part d'histoires réalistes, on part d'histoires authentiques. Vous avez votre réseau pour trouver ces histoires, Bernard?
Ah, mais j'ai mes informateurs. Les policiers diraient mes tontons.
Oui.
Mais oui, j'ai des contacts, et puis j'en ai de nouveaux à chaque fois, parce que en fonction de ce que demande l'histoire, moi, je pars pas de... La matière d'un récit, elle part pas de la pure imagination, elle part d'une réalité que l'auteur sublime. Et je tiens à ce poids de réalité, à ce poids de réel.
L'assassinat de Samuel Paty est présent indirectement dans ce livre.
Oui, alors ça, enfin, j'aurais préféré qu'il ne le soit pas, mais pour remettre les choses en perspective, j'ai commencé à écrire ce livre bien avant. Et j'avais écrit cette scène qui se passe dans un lycée où il y a une professeure qui s'appelle Mona Diallo qui explique à Servaz et à ses adjoints qu'il y a des choses qu'on ne peut plus enseigner dans ce lycée-là, ou quasiment la Shoah, l'évolution des espèces, l'origine du monde, l'évolution des espèces, etc. Et cette scène était déjà écrite, et puis est arrivée cette terrible affaire Samuel Paty. Et comme ça se passe à l'automne 2020, je ne pouvais pas ne pas en parler. Ça aurait été trop étrange pour les lecteurs que je ne l'évoque pas. Mais c'est juste une ligne en passant.
Oui, mais en même temps, vous avez l'instinct, comme on l'a dit tout à l'heure, de trouver des sujets qui sont dans l'actualité.
Parce que je suis en prise avec l'actualité, parce que c'est le rôle de tout auteur d'être profondément ancré dans quelque chose de très contemporain, et parce que c'est un mélange d'intuition et d'information, finalement.
C'est-à-dire que vous êtes romancier, en même temps, quelque part, journaliste.
Oui, mais plus romancier que journaliste.
Alors, votre personnage est Martin Servaz. Quand je vous avais reçu dans les clés de nuit, vous avez dit « Oh, ben, il reviendra peut-être pas », puis là, il est toujours présent, Bernard
Meunier. Oui, il est encore là, et toujours là, et Dieu sait qu'il est là pour moi, parce que c'est vrai que c'est parfois quelqu'un d'assez encombrant. Quand on travaille 7 jours sur 7 avec le même personnage, on finit par le connaître.
Et là, il va être obligé, et c'est le cœur de l'histoire, d'enquêter sur ses collègues.
C'est ça la difficulté, c'est là que sa position devient très délicate dans ce roman, c'est que parmi les suspects possibles de cette chasse à l'homme, il y a des policiers, en effet.
Alors, ça arrive à un moment où justement les policiers sont remis en cause dans l'actualité, mais ça n'a rien à voir.
Non, moi ce que je voulais parler, c'est que disons que Servaz étant un policier aujourd'hui, ici et maintenant, je ne peux pas parler de toutes les difficultés de ce métier qui est devenu tellement difficile, tellement compliqué. Disons que si Servaz avait été plombier, je parlerais d'histoire de tuyaux, mais il est policier. Donc je parle d'histoire de police et je ne peux pas ne pas parler de la situation de la police aujourd'hui.
Oui, car l'autorité de la police est remise en cause, Bernard
Meunier. Bien sûr, mais l'autorité de l'État est remise en cause de tous côtés. On le voit bien. Or, l'État, c'est quoi ? L'État, c'est la matérialisation du contrat social qu'une communauté d'hommes et de femmes se donne pour éviter la guerre de tous contre tous. Finalement, c'est ça. Et c'est ça qui nous menace si on n'arrive plus à faire État, à faire société. Et les deux piliers de cette autorité, c'est la police et la justice.
Et je pense que des policiers qui vous informent régulièrement pour vos romans, vous en ont parlé.
Bien sûr, de leurs difficultés, oui, évidemment qu'ils m'en parlent. Et puis on voit bien tout ce qui se passe. On voit bien que, par exemple, c'est le corps de métier qui compte le plus fort taux de suicide avec les agriculteurs. On voit bien que les difficultés d'intervention de la police sont de plus en plus grandes avec les agressions au domicile, les menaces de mort, les refus d'obtempérer, hein, toutes les demi-heures en France. On voit aussi que c'est quand même... On dit que c'est quand même un des métiers les plus surveillés. 67% des sanctions prononcées contre des fonctionnaires le sont contre des policiers, alors qu'ils ne représentent que 7% des effectifs de l'administration.
Mais ça veut dire aussi que votre roman est en plein d'actualité et c'est un soutien aux policiers qui en ont bien besoin.
Non, c'est pas un soutien. Je donne des faits et chacun se fait l'idée qu'il veut. Au contraire, je pense que c'est une vision équilibrée parce qu'il y a aussi des flics pour ripoux dans mon bouquin et ils sont bien gratinés aussi, ceux-là.
Il y a de tout.
Mais moi, j'ai la très grande majorité des fonctionnaires de police. Moi, j'ai été douanier à une époque. La très grande majorité des fonctionnaires de police sont des gens qui font un métier très difficile et qui le font le mieux possible dans les conditions extrêmement complexes qui sont les leurs, avec un manque de moyens cruels qu'on essaie de pallier petit à petit, mais et puis ça date pas d'hier. On se souvient du film Bertrand Tavernier nous a quitté le mois dernier, on se souvient des 627, ce film sorti en 92 qui montre déjà la grande misère de la police française.
Voilà. Puis dans le genre, il y a les ripoux avec Philippe Noiret, qui était gratiné aussi.
Et qui était plus drôle, oui.
Ouais. Alors, ce qui est évident aussi, et Martin Servaz va en être la victime, c'est l'impuissance de la justice face à la délinquance. Elle est dans le quotidien, on le voit dans les journaux, et pour vous, c'est aussi un sujet d'actualité.
C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet terrible. L'action de la justice, on a l'impression que la justice ne fait pas plus de bien au peuple aujourd'hui que, vous savez, que Don Quichotte, dans sa première action en faveur du valet fouetté, cet épisode où Don Quichotte prend la défense du valet Andrés, qui est fouetté par son maître, et quand il le recroise 30 chapitres plus loin, non seulement l'action de Don Quichotte n'a pas été favorable au jeune valet, mais il a été fouetté doublement après ça. On a parfois l'impression que l'action de la justice aujourd'hui a le même effet sur la criminalité, et ça, c'est très inquiétant.
Quand on voit les réseaux sociaux et avec des films sur la police, on voit le dealer qui est emmené au commissariat qui ressort tranquillement en disant « je reviens la semaine prochaine » pratiquement.
Ben oui, mais il y a combien de centaines de milliers de criminels qui ont été condamnés et qui sont en liberté. Après, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. J'insiste là-dessus. On sait très bien que là où il y a un donneur de leçons, en général, il y a un imposteur. Non, moi, je suis juste là pour poser des questions et je me pose au fond les mêmes questions que mes lecteurs se posent.
Et vous informez aussi, parce que vous avez découvert Bernard Meunier, c'est aussi en filigrane dans le livre, que certains sont en train de s'organiser pour faire justice eux-mêmes.
Ben oui, en fait, on m'avait laissé entendre qu'il y avait des gens qui se livraient, qui se préparaient comme ça au cas où le chaos ferait irruption en France. Et puis, peu de temps après, j'ai appris qu'il y avait ces généraux-là qui eux-mêmes parlaient de rétablir l'ordre. Donc on n'est pas loin de la fiction et la réalité se rejoignent assez.
Oui, surtout que des gens comme vous et moi sont prêts à réagir et à ce que tout ça s'arrête. C'est quand même inquiétant.
Bah, c'est ça, oui, exactement.
Alors, il y a aussi un nouveau personnage que vous avez introduit, Esther Koppelman, qui est une fouineuse dans la tradition journalistique qui n'existe plus pratiquement.
J'ai pris énormément de plaisir à créer ce personnage d'Esther Koppelman. On parlait de Nougaro, là, on a entendu Nougaro. Esther Koppelman, c'est un petit taureau aussi, hein, c'est comme Nougaro, c'est un petit gabarit comme ça. C'est quelqu'un avec beaucoup de punch, rentre dedans, et qui n'a pas la langue dans sa poche. Qui fume comme un pompier. J'ai adoré écrire ce personnage.
Et ce personnage se retrouve avec Martin Servaz dans l'histoire.
Oui, elle enquête de son côté, mais en tant que journaliste, évidemment. Et comme vous l'avez dit, c'est une fouineuse. Donc elle va gratter sous les apparences un peu tout ce qui se cache. Elle lève les pierres et va voir ce qu'il y a en dessous. Et elle fait au fond la même chose que fait Martin de son côté.
Ouais, c'est une journaliste à l'ancienne, puisque ce genre de situation existait dans les romans d'avant ou dans la vie.
Oui, j'espère qu'il y a encore des journalistes comme ça. Je me rappelle d'une phrase d'Henri Mankell qui disait qu'il y a les journalistes qui déterrent la vérité et il y a ceux qui remettent de la terre par-dessus.
Oui, voilà. C'est autre chose. Alors, le décor, c'est important. Et cette fois-ci, vous avez choisi l'Ariège. Pourquoi l'Ariège, Bernard Minier ?
L'Ariège, parce que la chasse, il s'agit d'une chasse à l'homme. Mmh. Je tiens à le préciser. Il n'est pas question de chasseur de gibier. Comme quelqu'un était revenu sur mes réseaux sociaux en me disant « Vous devriez avoir honte de parler ces pauvres oiseaux. » Mais ça n'a rien à voir avec les oiseaux. Et donc, une chasse à l'homme, ce n'est pas comme chasser le lapin de garenne le dimanche matin à côté du village. Il faut quand même être un peu tranquille. Or, l'Ariège, c'est à la fois le département le plus boisé d'Occitanie. Et là, ça se passe beaucoup dans la forêt. Et c'est aussi le département le moins peuplé. Pour donner un ordre de grandeur, la ville la plus peuplée d'Ariège, c'est 15 000 habitants, c'est Pamiers. On est loin de la conurbation toulousaine avec son million d'habitants.
Voilà. Donc on peut se cacher,
On peut se livrer tranquillement à ce genre d'activité à plein d'autres.
Et d'ailleurs, le guide du Routard présente l'Ariège comme le département idéal. C'est la moitié de la surface, c'est un parc naturel régional.
C'est ça, c'est magnifique.
En Ariège, on s'inquiète parce qu'on confond quelquefois Ardèche et Ariège.
Oui, je connais aussi l'Ardèche, c'est aussi très beau, mais c'est un peu moins vert. Mais l'Ariège est un département d'une beauté terrassante, d'une beauté... Et c'est vrai que c'est très, très boisé.
Et il y a une beauté musicale aussi que vous aimez, c'est cette chanson. Car pendant le confinement, vous avez réécouté Morrissey en boucle, le chanteur britannique contestataire, qui fait partie de vos idoles.
Oui, il a une voix dorée, une voix extraordinaire. C'est un très, très... Il écrit des textes superbes sur l'amour, sur la déchéance, sur la difficulté d'être et de vivre. Alors, il a un peu tourné mal ces derniers temps d'un point de vue...
politique.
Oui, j'avoue que je ne suis pas trop fan de la dernière version, mais il continue à chanter magnifiquement bien. Et bon, je n'ai pas arrêté de lire Céline à cause de ses idées, je n'ai pas arrêté d'écouter Morrissey à cause des siennes.
Voilà. Et d'ailleurs, il aime le cinéma français puisqu'il s'est inspiré d'Orphée pour une de ses pochettes avec Jean Marais et de L'Insoumis de Delon pour un autre album.
C'est vrai, et il a aussi dans un album, il tenait une pochette de Sacha Distel. Il aimait aussi la variété française.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous faites des signatures, il y en a moins en ce moment, mais c'est plein à craquer, le public est là.
Oui, il est là pour moi, pour quelques confrères comme moi, qui sont aussi des amis.
Surtout pour vous, Bernard Minier.
Il y en a d'autres aussi, mais c'est vrai que c'est formidable d'avoir de voir ces lecteurs qui viennent, qui font des fois des dizaines, des centaines de kilomètres pour vous rencontrer. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est encore quelque chose dont je n'aurais pas osé rêver.
On verra. En tout cas, en attendant, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment, et ils sont nombreux, à lire cette Chasse à l'homme, La Chasse, chez Ixo, un roman qui est fait pour oublier le confinement et tous les moments difficiles qu'on traverse.
Merci beaucoup.
Merci à vous et puis à bientôt dans Les Clés d'une Vie, pour
avec
une troisième fois. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.